Vous écoutez, on lit pour vous.
Parle consommation, un outil à connaître. Un texte de l'Office de la protection du consommateur paru dans l'édition hiver 2024 du magazine Virage. La plateforme d'aide en ligne Parle consommation, c'est une solution simple, gratuite et rapide pour aider les consommateurs à régler les problèmes qu'ils peuvent vivre avec des commerçants sans avoir recours aux tribunaux. Un retard dans la livraison de vos fauteuils, un nouveau réfrigérateur qui fonctionne mal, ce genre de problème s'avère hélas assez courant. Et il n'est pas toujours facile de faire valoir ses droits en tant que consommateur. La plateforme Parle Consommation fait partie des solutions mises à votre disposition par l'Office de la protection du consommateur. Elle permet aux consommateurs et aux commerçants de régler à l'amiable différends qui les opposent dans un environnement numérique confidentiel, neutre et sécurisé. Quelles sont les conditions d'utilisation? Pour avoir accès à Parle Consommation, vous devez d'abord communiquer avec l'Office pour exposer votre problème. S'il répond aux conditions d'utilisation, une agente ou un agent de l'Office vous transmettra par courriel tous les renseignements vous permettant d'accéder à la plateforme ainsi que de l'information pour vous aider dans votre démarche. Le problème que vous souhaitez régler doit concerner l'un des quelques 130 commerçants participants. Il s'agit principalement de magasins à grande surface, de détaillants de meubles, d'électroménager et de piscine, ainsi que des commerçants d'automobiles et du secteur de la rénovation résidentielle. De plus, le litige doit être de nature exclusivement civile. Par exemple, biens non reçus ou services non fournis, ou fournis partiellement, retard dans la livraison du bien ou dans la prestation du service, bien défectueux qui n'a pas eu une durée de vie raisonnable ou qui ne peut servir à l'usage auquel il est destiné, bien ou service non conforme au contrat, à une déclaration du vendeur ou à un message publicitaire. Comment cela fonctionne-t-il? Après avoir ouvert un compte dans la plateforme, vous pouvez expliquer la situation au commerçant et négocier avec lui une solution à l'amiable. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, il est possible de profiter des services d'un médiateur accrédité par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec, et ce, tout à fait gratuitement. Parvenir à une entente sur Parle Consommation présente des avantages pour le consommateur, certes, mais également pour le commerçant. Cela permet d'augmenter le taux de satisfaction de sa clientèle, sans compter que pour chaque dossier réglé, l'outil permet d'éviter qu'une plainte le visant ne soit consignée à l'Office. Un taux de succès élevé. Depuis le lancement de cet outil de médiation en ligne en novembre 2016, plus de 8600 dossiers ont été réglés en négociation ou en médiation. Le taux de règlement a atteint plus de 76% et le délai moyen pour conclure une entente est d'environ 24 jours ouvrables. Ce service est offert à toute la population du Québec. N'hésitez pas à l'utiliser pour tenter de régler un différend avec un commerçant. Pour en savoir plus, consultez la section du site web de l'Office consacré à Parle Consommation, opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle. Vous n'êtes pas à l'aise sur le web? Une démarche simple vous permet d'ajouter une représentante ou un représentant pour agir en votre nom dans votre dossier sur la plateforme. C'était « Parle consommation, un outil à connaître », un texte de l'Office de la protection du consommateur paru dans l'édition hiver 2024 du magazine Virage.
Voyage spatio-temporel. Un texte de Philippe J. Fournier paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité. le gouvernement américain pourrait être contraint de révéler en 2024 si des extraterrestres ont visité la Terre en vertu d'un amendement d'un projet de loi bipartisan proposé par les démocrates. Connu sous le nom d'Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, ou loi sur la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés, le texte stipule que les agences gouvernementales possédant des rapports, des échantillons d'engins ou du matériel biologique soupçonné de provenir du ciel devront les rendre publics dans les 300 jours suivant leur découverte. La fascination qu'exercent les extraterrestres sur les humains ne date pas d'hier. Combien de films, de séries télé, d'ouvrages littéraires y ont été consacrés au cours des dernières décennies, du dernier siècle? Nous pouvons même retourner dans l'Antiquité, où le poète romain Lucrèce écrivait, je paraphrase, que rien dans l'univers n'est unique et isolé, et par conséquent, dans d'autres régions, il doit y avoir d'autres terres habitées par des tribus d'hommes et des races de bêtes différentes. « Je veux y croire », insistait l'agent Fox Mulder dans la télésérie « Aux frontières du réel » des X-Files. Et en effet, il faut une foi solide comme le roc pour espérer la visite d'un être intelligent en provenance d'ailleurs, ne serait-ce que de la banlieue du système solaire. Pourquoi? La physique moderne nous apprend l'étendue ahurissante des distances interstellaires dans notre coin de la Voie lactée. Même en voyageant à une fraction de la vitesse de la lumière, un défi en soi, étant donné qu'il faudrait aussi ralentir en s'approchant de la planète visée, l'humain aurait besoin de plusieurs générations pour parvenir à destination. C'est donc dire que les passagers qui entreprendraient ce périlleux voyage le feraient en sachant bien qu'ils périraient avant d'atterrir dans un nouveau monde. En fait, ils ne seraient que les porteurs d'ADN des générations futures qui, peut-être, mettraient les pieds sur une exoplanète. En plus de faire fi de lois fondamentales de la physique, comme la conservation d'énergie, une capsule en système fermé ne peut recycler l'énergie indéfiniment, ce scénario ignore jusqu'au fondement de la biologie évolutive. Car même en supposant que des descendants, etc., des passagers d'un vaisseau puissent survivre à un tel périple, les êtres qui parviendraient à destination après avoir subi une évolution seraient d'une autre espèce. La vie s'adapte à son environnement et une capsule pressurisée en microgravité où toute matière rejetée par le corps, urine, excréments, sueur, air expiré, doit être recyclée en un environnement complètement différent de celui sur Terre. Oh! Et tout cela sans oublier l'exposition prolongée aux radiations de l'espace, pouvant causer mutations génétiques et maladies graves, ainsi que la reproduction répétée entre membres de la parenté. En effet, après quelques générations ayant dû vivre dans un vaisseau spatial, tous les futurs couples reproducteurs seraient cousins. Est-ce que ces post-humains pourraient s'adapter au voyage et prospérer le temps de celui-ci? Sans accident? Désastre ou mutinerie? Nous ne le savons pas. Si la vie extraterrestre existe, et je crois qu'elle est statistiquement inévitable, compte tenu du nombre d'étoiles dans l'univers, nous découvrirons sa présence par des ondes électromagnétiques, telles des ondes radio, qui agissent comme des bouteilles à la mer, bien avant que des humanoïdes nous rendent visite. Nous avons maintenant des télescopes partout sur la planète qui observent chaque recoin du ciel pour détecter des signaux intelligents. Jusqu'ici, rien de concluant, mais la recherche ne fait que commencer. Et il s'agit là d'une des grandes tragédies de l'univers tel qu'il est constitué. Pour vivre un réel premier contact extraterrestre, il ne suffit pas de se croiser dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il y a des milliers d'années, à l'époque où nos ancêtres primitifs étaient en train de cogner des cailloux ensemble dans l'espoir d'allumer un feu, peut-être que des signaux intelligents provenant d'une civilisation lointaine ont croisé la Terre. Mais que, comme personne n'avait la technologie pour être à l'écoute, les antennes radio ont été inventées au début du XXe siècle, ils ont poursuivi leur long périple dans la galaxie. Dans ce cas, les signaux nous auraient croisés dans l'espace, mais pas dans le temps. Et si nous devions aujourd'hui détecter de tels signaux provenant d'un autre coin de la galaxie, la civilisation qui les aurait envoyés il y a des milliers d'années serait sans doute déjà éteinte. Elle nous aurait croisés dans le temps, mais pas dans l'espace. Alors, somme toute, le gouvernement américain peut bien continuer d'écrire des lois sur la gestion des découvertes d'extraterrestres. La race d'humains habités par la foi qui, comme Mulder, veulent y croire, n'est pas près de disparaître. C'était « Voyage spatio-temporel », un texte de Philippe J. Fournier, paru dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité.
Le petit monde de l'altruisme efficace, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 janvier 2024 dans la presse. Comment aider le monde à devenir meilleur? Les disciples de l'altruisme efficace abordent ce problème d'une façon bien particulière et ils font parler d'eux, notamment dans la Silicon Valley et dans le monde de l'intelligence artificielle, IA, où ils forment un petit cercle très près du pouvoir. Le cas OpenAI. Si la philosophie existe depuis plus ou moins 15 ans, jusqu'à l'automne 2023, l'altruisme efficace était un concept surtout connu de ceux qui s'y intéressaient de près, plusieurs étant philosophes, économistes et chercheurs, ainsi que d'une partie de la communauté de Silicon Valley. Le congédiement à l'automne du président d'OpenAI est venu mettre les projecteurs sur cette idéologie. Petit rappel. Sam Altman s'est fait montrer la porte abruptement par le conseil d'administration d'OpenAI le 17 novembre 2023, ce qui a mené à une crise largement médiatisée qui s'est conclue par le retour d'Altman 6 jours plus tard et la création d'un nouveau conseil. On a pointé le double mandat d'OpenAI, qui est un organisme à but non lucratif, OBNL, avec une branche à but lucratif, comme faisant partie du malaise qui régnait au sein du groupe. Parmi les autres facteurs de discorde soulevés, des divergences d'opinion sur les enjeux de sécurité inhérents au développement de l'IA, mais aussi l'altruisme efficace, cette philanthropie planifiée et dirigée. Dans un article de Forbes, publié en novembre dernier, on met même cette philosophie, très populaire dans la Silicon Valley, au cœur de la crise, puisque des membres du Conseil en étaient de fervents défenseurs. Leurs valeurs et façon de voir les choses cadraient moins avec celles de Sam Altman. Mais que diable est l'altruisme efficace? L'idée de base, mieux vaut faire des gestes vraiment efficaces plutôt que de se laisser porter par des pulsions empathiques moins réfléchies. Le mouvement a plusieurs sources et encore plus de ramifications. L'Australien Peter Singer est reconnu comme l'un de ses fondateurs. Il a publié quelques ouvrages sur le sujet. Les altruistes efficaces sont contre l'utilisation de l'empathie parce que si on opte pour l'empathie, on aimera mieux sauver une personne que 10, illustre Kevin Bisson, qui fait partie d'Altruisme efficace Québec. Selon cette façon de penser, une cause qui vous fait vibrer devrait être laissée de côté si votre don rayonne moins. Les altruistes efficaces veulent maximiser le bien en utilisant les meilleures données scientifiques, dit Kevin Bisson. C'est ce qui les fait choisir la pauvreté mondiale plutôt que la pauvreté locale, par exemple. La philosophie met aussi de l'avant le principe « gagner pour donner ». Selon celui-ci, votre impact sera plus grand si vous donnez une partie de votre salaire à un organisme qui peut engager 5 personnes sur le terrain que si vous faites vous-même une action bénévole occasionnelle. C'est aussi ce qui incite les altruistes efficaces à gagner un maximum d'argent. Parmi les modèles cités par Peter Singer, il y a Bill Gates et Warren Buffett, d'immenses philanthropes. Les adeptes de cette philosophie n'ont pas tous des revenus aussi spectaculaires. En consacrant un pourcentage raisonnable de ses entrées d'argent qui permet de toujours avoir une vie confortable, tout le monde peut faire une différence, plaide Peter Singer, qui enseigne au département de philosophie de l'Université Princeton aux États-Unis. Il est aussi le cofondateur d'Australia Animal. Il est végétarien depuis 1971, selon son profil LinkedIn, et il est engagé dans la lutte contre l'élevage industriel. Le mouvement considère que si on veut faire le bien, tous les êtres vivants, y compris les animaux, doivent en être bénéficiaires. À l'automne 2023, Peter Singer a quand même surpris certains de ses fidèles partisans en défendant les rapports sexuels entre animaux et humains. Selon lui, ça serait déjà un meilleur destin pour l'animal que d'être enfermé sur une ferme industrielle et finir dans une assiette. Philanthropie, ses disciples. Plusieurs figures marquantes vantent les bienfaits de cette générosité rationnelle. L'une d'elles est Sam Bankman-Fried, roi déchu de la crypto-monnaie, reconnu coupable de fraude l'automne dernier. Le fondateur de FTX a toujours prôné haut et fort les bienfaits de son altruisme efficace et sa tendance à la frugalité pour pouvoir être plus généreux. Or, il est devenu l'exemple à ne pas suivre du mouvement, puisqu'il incarne désormais sa dérive ou comment on peut s'enrichir à tout prix sous prétexte que les gains seront remis à autrui. Le milieu est petit, les mêmes personnes s'y croisent constamment, note Lise Langlois, directrice de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA, et du numérique au BVIA de l'Université Laval. C'est un réseau tissé serré. Laetitia ne peut s'empêcher de sourciller lorsqu'elle voit que les uns siègent au conseil d'administration des fondations des autres et vice-versa, ou se financent mutuellement. Elle recommande une certaine vigilance lorsque l'on observe les bienfaits de l'altruisme efficace. Le mouvement a subi une sorte d'institutionnalisation qui se fait par des centres de recherche et des associations caritatives qui ont pignon sur rue dans de grandes universités et sont soutenues pour la plupart par des ultra-riches, dit Lise Langlois. William McCaskill fait assurément partie de ces noms qui reviennent souvent, lui-même étant à l'origine de quelques organisations clés. À propos de l'intelligence artificielle, il maintient que son développement devrait être plus prudent. Il prône le long-termisme, l'importance d'investir dans l'avenir, bien au-delà de son existence, un principe au cœur de l'altruisme efficace qui résonne fort dans le milieu de l'intelligence artificielle. Le philosophe écossais veut que l'on s'attaque d'abord aux problèmes négligés et pour lesquels il existe une solution. Les causes liées au bien-être animal sont très présentes. L'enjeu est un thème récurrent auprès de ces philanthropes. À noter, les vedettes de ce mouvement n'ont pas que l'altruisme d'efficace. Leur discours est redoutable. Elles sont d'excellentes oratrices. Vous écoutez « Le petit monde de l'altruisme efficace », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 janvier 2024 dans la presse. Un mouvement très rationnel. On pourrait croire qu'un monde de programmeurs, de mathématiciens et autres personnalités rationnelles ont mieux à faire que de s'adonner à des discussions philosophiques sur la bonté et la rétribution de leurs avoirs. Et pourtant, c'est l'aspect rationaliste qui plaît, explique Kevin Bisson, qui fait partie d'Altruisme Efficace Québec. On essaie de tout quantifier. Selon lui, la rationalisation de ce qui serait autrement intuitif appelle ce type de personnalité et explique la popularité du mouvement dans la Silicon Valley. Ce sont les gens les plus intelligents que vous pouvez rencontrer, dit Kevin Bisson. Ils sont extrêmement rigoureux et cherchent des arguments béton. En plus d'être des geeks, les adeptes de ce mouvement ont d'autres points communs. Ce sont massivement des hommes blancs, relève Lise Langlois, directrice de l'OBVIA de l'Université Laval. Ils ont fait fortune dans le secteur de la finance et des entreprises numériques. Beaucoup atteignent le sommet alors qu'ils sont encore jeunes. Ce sont des gens talentueux, ambitieux, dit-elle, qui s'adressent souvent à leur père. Ils cherchent à produire une quantité colossale de biens. Faut-il s'en méfier? « Il faut regarder les angles morts », répond cette spécialiste de l'éthique, particulièrement dans ce réseau où tout le monde se connaît. Lise Langlois rappelle par ailleurs que leurs actions sont définies selon leur propre conception du bien, qui n'est donc pas universelle. Selon elle, il faut aussi y voir une façon d'acheter sa bonne conscience et de bâtir du capital social, tout en récoltant de généreux avantages fiscaux. Si on regarde la définition de l'altruisme, on dit que c'est une disposition à se soucier d'autrui d'une façon désintéressée. Ce qui me semble paradoxal quand on y accole le mot « efficacité », selon Lise Langlois. La dérive. Les motivations de départ du mouvement sont nobles, dit Jean-Marc Fontan, professeur de sociologie à l'UQAM et co-directeur de PhiLab, le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie. Ça donne une légitimité et ça rend la vision philanthropique accessible, dit-il. Or, les altruistes efficaces ne s'attaquent pas aux causes profondes des problèmes, maintient le sociologue. Un exemple, on recommande d'acheter des filets contre les moustiques pour lutter contre le paludisme parce qu'on peut ainsi sauver plus de gens que si l'on aide une personne itinérante du quartier, explique le professeur Fontan. Ce qu'il croit, c'est que les ressources que vous attribuez à un sans-abri seront gaspillées parce qu'elles n'auront pas d'impact sur un nombre significatif de personnes qui vont pouvoir être actives dans la société, devenir productrices et changer les choses dans leur environnement, explique Jean-Marc Fontan. Or, riposte M. Fontan, si j'envoie de l'argent pour acheter des moustiquaires, ça va permettre à 10 personnes de mieux vivre ou de survivre, mais ça ne va pas changer le système dans lequel elles se trouvent. Selon le professeur, cette façon de réfléchir manque de profondeur. Si la méthode est simple, dit-il, elle devient simpliste. En plus de la validité des principes qui sont mis en cause par de nombreux observateurs, les faux pas de plusieurs porte-étendards jettent du discrédit sur l'ensemble du mouvement. Quand vous êtes dans ces environnements libres de regard critique, d'évaluation éthique, ça peut donner lieu à des dérives de cette nature, dit Jean-Marc Fontan, à propos du cas Bankman-Fried. Ce sont des gens convaincus, des idéologues, dit le sociologue. Ça devient une religion d'une certaine façon. C'est là que la rationalité perd sa capacité d'éclairer. Kevin Bisson est aussi critique de certaines vedettes du groupe. Il est toutefois plutôt optimiste quant à l'avenir du mouvement. D'ailleurs, Altruisme efficace Québec est un petit groupe qui s'intéresse plutôt au débat d'idées. On y trouve surtout des jeunes, plus philosophes que donateurs. Selon son porte-parole, cette crise intestine va briser cette cohésion qui, oui, peut mener à des dérives. C'était « Le petit monde de l'altruisme efficace », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 13 janvier 2024 dans La Presse.